Bienvenue à notre dernier rendez-vous de la saison culturelle de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations. Ce soir, donc, nous allons vous inviter à découvrir les collections orientales d'une bibliothèque étrangère, comme c'est la coutume désormais en fin de saison culturelle. Et donc, pour vous présenter les collections de la Bibliothèque d'État de Bavière. Thomas Tabori est ici présent et la séance sera animée par Soline Lo-Suchet de la BULAC, qui est chargée de la mission coordination, enseignement et recherche, ainsi que du domaine chinois. Deux excellentes raisons pour elle de vous présenter Thomas Tabori.
Bonsoir. Alors, Thomas Tabori est directeur adjoint du département Orient et Asie orientale à la Bibliothèque de l'État de Bavière, la Bayerischstadtbibliothek. Je sais pas si c'est... Voilà. Il est plus particulièrement en charge des collections sur l'Asie orientale et des projets sur financement extérieur, comme par exemple la numérisation des imprimés et des manuscrits chinois. Thomas Tabori est par ailleurs sinologue. Il a suivi des études de chinois et de philosophie à Nankin, Pékin, Paris et Leipzig. Et il va nous présenter ici l'histoire de la bibliothèque de l'État de Bavière en présentant plus particulièrement, je crois, les projets de numérisation ainsi que les services innovants, notamment tout ce qui est applications pour tablettes et téléphones portables. Puis il nous présentera les collections orientales de la bibliothèque, avec, j'espère, un petit focus sur le fonds chinois.
Merci, Soline. Ça marche ? Oui ? Non ? Oui ? Ah, ok. Comme ça. Ok. Voilà. Ok. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'avoir aujourd'hui l'occasion de vous présenter la Bibliothèque de l'État de Bavière et ses collections orientales. Je vais parler à peu près 30 minutes. D'abord, j'aimerais bien vous donner quelques renseignements généraux sur la fonction, l'histoire et les fonds de la bibliothèque et sur les activités dans le domaine de la numérisation et les services innovants. Après, je voudrais vous présenter le département Orient et Asie, dans les générales, collections et projets récents. La bibliothèque de l'État de Bavière à Munich est la bibliothèque centrale du pays de Bavière et une des grandes bibliothèques de recherche à caractère universel en Europe. Elle fait partie de la soi-disant bibliothèque nationale dispersée d'Allemagne. Le système des bibliothèques en Allemagne est marqué par le fédéralisme allemand. Ce fédéralisme trouve son expression, entre autres, dans le fait qu'il y a trois bibliothèques qui forment ce que l'on appelle la bibliothèque nationale dispersée d'Allemagne. La bibliothèque nationale allemande, située à Francfort et Leipzig, collectionne toutes les publications allemandes postérieures au 1er janvier 1913. C'est pourquoi, avec la Bibliothèque nationale allemande, les deux grandes et vieilles bibliothèques de recherche généralistes en Allemagne, la Bibliothèque de l'État de Berlin et la Bibliothèque de l'État de Bavière, forment ce que l'on appelle la Bibliothèque nationale dispersée. La bibliothèque a été fondée par le duc Albrecht V en 1558 comme bibliothèque de la cour de Wittelsbach. En cette année, Albrecht V a acheté la bibliothèque de Johann Albrecht Wittmannstetter, humaniste et philologue, et un des précurseurs de l'orientalisme en Occident. 13 ans plus tard, la collection de Johann Jakob Fugger, marchand et banquier très puissant, y a été ajoutée. Cette collection a contenu la bibliothèque de Hartmann Schedel, médecin allemand connu notamment comme humaniste. Déjà à cette époque, la bibliothèque de la cour contenait des ouvrages orientaux, plus de 300 manuscrits arabes et hébraïques. Avec la sécularisation bavière, c'est-à-dire la confiscation des biens des monastères en 1803, les fonds de la bibliothèque royale de Munich se sont accrus d'environ 500 000 ouvrages, 19 000 manuscrits. C'est depuis 1919 que l'ancienne bibliothèque de la cour de Bavière a porté le nom Bibliothèque de l'État de Bavière, Bayerische Staatsbibliothek, abrégé BSB. Pour la suite, je vais utiliser cette abréviation. Aujourd'hui, la bibliothèque compte environ 750 collaborateurs et un budget annuel d'environ 53 millions d'euros. La BSB possède au total plus de 10 millions de volumes, plus de 62 000 périodiques imprimés électroniques et 500 000 livres électroniques. En ce qui concerne les manuscrits et les incunables, la BSB abrite une des collections les plus grandes au monde. Elle rassemble des publications de toute provenance et dans toutes les disciplines, à l'exception seulement de la technologie et de l'agronomie appliquée. Les sciences de l'Antiquité, de l'histoire, de la musique, de l'Europe de l'Est, de l'Orient et de l'Asie orientale sont ses domaines de spécialité et là, il y a plusieurs fonds spécialisés prestigieux. Contrairement à une bibliothèque universitaire, la BSB n'a pas de véritable public cible local. Plus largement, ses services s'adressent aux chercheurs, étudiants et usagers de la formation à l'échelle nationale et internationale. Les salles de lecture sont utilisées quotidiennement par environ 3000 personnes. Les salles sont ouvertes 7 jours sur 7, de 8h à 24h. Un des objectifs stratégiques de la BSB est de numériser au plus vite ses collections libres de droit et de le mettre à disposition de tous, tout en tenant compte des obligations légales. La BSB poursuit ce but de numérisation intégrale de ses fonds depuis 1997, année de création du Centre de numérisation münichois, Münchner Digitalisierungszentrum, qui est un département de notre bibliothèque, établi avec le soutien financier de la Fondation allemande pour la recherche. Depuis sa fondation, le MDZ, le Digitalisierungszentrum, a mené à bien plus de 100 projets. Voici le site web du MDZ. Tous les manuscrits, incunables et imprimés historiques du XVIe siècle et toutes les autres collections vieilles et précieuses sont numérisés maison en utilisant la chaîne de numérisation du MDZ. Concernant le segment de collection allant du XVIIe au XIXe siècle, la BSB a pris le chemin d'un partenariat public-privé. En 2007, la bibliothèque a signé un accord de coopération avec Google pour la numérisation des fonds entrés dans le domaine public. Aux côtés de la BSB, entre autres les bibliothèques de Stanford, Michigan, Harvard et Princeton, ainsi que la Bodleiana en Oxford, prendront part au projet de Google. Dans le cadre de cet accord, Google scannera les collections libres de droit de 17e, 18e et 19e siècle, comprenant plus d'un million d'ouvrages. Parmi eux, il y a aussi beaucoup d'ouvrages orientalistes. 900 000 ouvrages, 900 000 volumes ont déjà été numérisés. Les copies numériques seront accessibles par Internet partout dans le monde, aussi bien par le site de la BSP que par Google Book Search et par la recherche générale de Google. Pour la BSP, l'avantage décisif de cette coopération est que Google prend en charge le coût complet de la numérisation. À titre de contrepartie, Google conserve une Google Digital Copy des documents pour pouvoir l'intégrer dans le moteur Google Book Search. La BSP garde une copie, sans marque Google, pour l'inclure dans son offre Internet. La BSP acquiert ces données physiquement et de ce fait de manière permanente. Les Digital Library Copies peuvent être mises à disposition dans le cadre de l'OPAC et des services web de la BSP. Voici les chiffres de performance actuels. Au total, plus d'un million de volumes ont déjà été numérisés. 900 000 par Google et 130 000 par le MDZ. L'archivage à long terme est un véritable défi. Il est garanti par l'étroite collaboration avec le Centre informatique Leibniz, Leibniz Rechenzentrum, dépendant de l'Académie bavaroise des sciences. Les copies numériques sont référencées dans beaucoup de catalogues et bibliothèques virtuelles, par exemple dans la Europeana, et elles sont aussi utilisées pour proposer des services innovants. Trois exemples. Les numériques sont utilisés dans certaines applications mobiles pour portables ou tablettes, produit par la BSP ensemble avec une entreprise informatique. Les Famous Books, les Oriental Books, l'application de réalité augmentée Ludwig II, Ludwig II, Walking in the Footsteps of a Fairy Tale King, l'application Magnificent Manuscripts, Treasures of Book Illumination from 780 through 1180 et l'application Bavaria in Historical Maps. Toutes les applications sont gratuites et elles sont étonnamment souvent téléchargées. Ici, quelques captures d'écran de l'application Oriental Treasures avec notre manuscrit arabe et persane les plus célèbres. La dernière application produite et l'application Bavaria in Historical Maps, Bayern in historischen Karten, qui est une sorte de historical Google Maps pour Bavière. Voici certains écrans et une vidéo. Thank you. Voilà. Deuxième exemple pour un service innovant, Gesture-Based Computing avec le 3D BSP Explorer, qui a été développé en collaboration avec le Fraunhofer Heinrich Hertz Institute. The 3D BSP Explorer means direct interaction with digital data, no mouse, no keyboard, no touch, and no 3D glasses are needed. Voici une courte vidéo. Peut-être on peut discuter ce 3D BSP Explorer est déjà un vrai service ou plutôt une expérience. Troisième et dernier exemple pour un service innovant, the Image-Based Similarity Search. En français, peut-être c'est... recherche de similitude d'image. Pour ce service, la BSP a utilisé une méthode qui a été développée par l'Institut Fraunhofer. Je vais passer à l'anglais ce mot pour deux phrases. 82,000 books from the 8th to the 20th century of BSP holdings were indexed by image detection on books pages. Images are extracted automatically and made searchable and comparable. There is a large variety of materials included: manuscripts, rare books, maps, newspapers and books. Voici un exemple. D'abord la séparation texte-image et après la recherche. Je m'arrête ici avec des services innovants et continue avec le département Orient et Asie. D'abord, quelques informations générales. La bibliothèque possède aujourd'hui plus de 600 000 imprimés orientaux en langue vernaculaire. Au surplus, la bibliothèque possède à peu près le même nombre d'ouvrages en langue occidentale se rapportant à ces domaines. La collection des manuscrits orientaux compte 17 000 manuscrits en 45 langues différentes environ, venues de tout l'Orient. Les premiers manuscrits orientaux, environ 300, sont arrivés à la bibliothèque dès sa fondation. Manuscrits et imprimés orientaux et asiatiques ont été collectionnés continuellement par les dirigeants bavarois. La sécularisation a également enrichi le fonds oriental. Elle a apporté, par exemple, du monastère de Poling, le seul manuscrit complet du Talmud de Babylone qui soit au monde, et aussi plusieurs manuscrits arabes et imprimés chinois. Ici, vous voyez un fragment de Shijing, le classique des Fers du XVIIe siècle, venu également du monastère de Poling. Le XIXe siècle a vu beaucoup d'acquisitions significatives et achats de masse. Deux exemples. Carl Friedrich Neumann a sélectionné environ 3500 livres chinois à Guangzhou en 1830. Et la bibliothèque du célèbre orientaliste Étienne Marc Quatremer a été achetée en 1858. Elle comptait 1200 manuscrits venus du Proche-Orient et de l'Inde et 2000 ouvrages chinois et mandchous. Il convient de signaler particulièrement les exemplaires du luxe du Coran parmi les manuscrits arabes, ainsi que les reliures persanes en laque, la collection des plats de reliures tibétains et la collection de manuscrits et imprimés chinois. Aujourd'hui, le département s'occupe de l'Afrique du Nord, du Proche et Moyen-Orient, de l'Asie centrale, du Sud et de l'Est. Il se divise en 5 services. Monde arabe et islam, langue turque et persan, hébreu, yiddish, christianisme oriental, Asie centrale et Asie du Sud et Asie de l'Est. Quant à l'acquisition d'ouvrages en langue originale, l'accent est mis sur les lettres, philosophie, religion, histoire, archéologie, linguistique et littérature, musique, architecture et art, histoire des sciences naturelles, histoire du livre ainsi que les éditions classiques. En matière d'acquisition, nous avons un système mixte de commandes globales et d'ordre actif. Plus de 2/3 de l'acquisition résulte d'un plan de commande globale selon notre profil d'acquisition. Nous avons plus de 25 fournisseurs et en 2013, nous avons acheté environ 4500 ouvrages en langue originale. Nous avons commencé le catalogage en écriture originale il y a 20 ans. Depuis les débuts des années 1990, les titres chinois et japonais sont catalogués en version transcrite et en écriture originale. Depuis 2007, l'écriture originale est implantée aussi dans les titres hébraïques, arabes et iraniens. La rétroconversion de nos catalogues spécialisés est terminée. Les derniers catalogues conventionnels ont été le fichier chinois et le fichier japonais qui ont été convertis par une entreprise chinoise. Maintenant, toutes les collections sont accessibles en ligne par OPAC, par catalogue collectif de réseaux régionaux et par OCLC WorldCat. Dans le cadre de la dernière exposition de notre département, une exposition de manuscrits islamiques en 2010, près de 50 manuscrits islamiques ont été numérisés. Depuis 2011, nous sommes en train d'exécuter un grand projet de numérisation et de description scientifique des ouvrages chinois financé par la Fondation allemande pour la recherche. on va numériser manuscrits imprimés en 11 000 volumes et ainsi nous allons créer 1 million d'images numériques au total. Ici quelques impressions. On donnera accès libre à nos ouvrages numériques à travers nos collections numériques, notre catalogue web, WorldCat et autres catalogues et bibliothèques virtuelles. Un site internet propre, collection numérique d'Asie orientale de la BSP, eastasia.digitalcollections.de, et en ligne, où les roulants pourront être consultés sur un serveur Zoom. Merci.
Donc, merci à Thomas Tabéry pour sa présentation extrêmement impressionnante. Particulièrement pour ma part sur ce qui est les services innovants. On n'en est pas encore là, mais c'est stimulant. Personnellement, j'ai déjà utilisé l'une des applications pour iOS. Voilà. J'avais quelques petites questions, même si la présentation était déjà très complète. Donc j'en ai quelques-unes qui se sont éliminées d'elles-mêmes. Je voulais savoir comment la bibliothèque fait cohabiter des publics aussi divers, entre public chercheur, public étudiant et grand public. Est-ce qu'il y a des espaces séparés ou bien est-ce que tous les espaces sont ouverts aux différents publics, enfin, voilà.
Oui, depuis quelques années... la bibliothèque a une salle de lecture spéciale pour des chercheurs. Comme ça, il y a une séparation.
Est-ce que c'est parce que vous avez senti une demande de la part des publics chercheurs à avoir un espace
Oui. Avant, il y a eu des problèmes parce que les places sont très rares. Il y a eu des conflits de temps en temps. Il n'y a pas de place encore pour les chercheurs. Et on a maintenant... c'est beaucoup plus relax parce qu'il y a cette salle spécialement pour les chercheurs.
Alors, sur un sujet complètement différent, parce que là, vous avez un travail de numérisation qui est assez incroyable. Ceci dit, il y a souvent des ouvrages qui ne sont pas forcément en état d'être numérisés parce qu'ils sont trop fragiles ou trop abîmés. Est-ce que vous avez un atelier de restauration en interne ou est-ce que vous faites appel à des prestataires extérieurs ?
Nous avons un institut pour la restauration qui fait partie de notre bibliothèque. C'est un département de la BSP, IBR, Institut für Buch- und Handschriftenrestaurierung, Institute for Book and Manuscript Restoration. Et cet institut, donc en fait là-bas, ils ont fait les restaurations pour ce sorte d'ouvrages. Oui.
Et du coup, vous avez des restaurateurs spécialisés dans le livre oriental, enfin, parce qu'il y a quand même des spécificités très différentes,
oui,
notamment
oui, oui,
pour
oui.
Les ouvrages japonais, coréens,
oui.
Chinois.
Oui,
donc, il y a des gens qui se sont formés.
Oui, une collègue de ce département, Elle est japonaise, donc elle est très, elle connaît très bien les imprimés de chinois et de japonais, oui.
Et par rapport au partenariat avec Google, maintenant que vous avez ce partenariat, est-ce que la station de numérisation interne continue d'être très active, ou est-ce qu'en fait maintenant tout est externalisé?
Non, c'est encore la numérisation maison, donc la numérisation, les projets de la numérisation dans notre Münchner Digitalisierungszentrum, notre bibliothèque, sont encore très actives. Il y a encore beaucoup de projets parce que, comme j'ai dit, il y a une stricte séparation
chronologique, c'est ça?
Oui, c'est ça. Tous les œuvres, tous les imprimés, tous les manuscrits, voilà, tous les manuscrits sont numérisés maison, et tous les imprimés très précieux et très vieux sont numérisés maison aussi. Et seulement les imprimés pas trop précieux et des imprimés à partir du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle sont numérisés par Google. Donc il y a une très stricte séparation.
J'ai une dernière question, là plus sur le département Orient et Asie, c'est comme ça qu'il s'appelle. Tu as parlé d'une quarantaine de langues couvertes. J'imagine que vous n'avez pas 40 spécialistes, voilà, parce que ça, c'est pas possible. Et du coup, en termes d'acquisition, comment ça se passe en fait? Vous faites confiance aux fournisseurs pour les langues qui ne sont pas maîtrisées en interne? Comment vous cataloguez?
Notre collection. Dans notre collection, il y a des ouvrages en 45 langues différentes. Aujourd'hui, donc c'est tous les ouvrages qui sont venus dans notre bibliothèque pendant les années. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, notre département compte seulement 13-14 membres en 5 services, et naturellement nous devons nous concentrer sur quelques régions, quelques langues, et nous essayons to cover as many languages as possible. But notre ressources sont limitées.
Je pense en particulier à la situation de la Chine, où il y a beaucoup de langues minoritaires, mais aussi des écritures minoritaires. Ouais. Nous, personnellement, on les couvre très, très peu. Donc, j'étais curieuse de savoir si vous acquérez un peu... en I.
Donc en Chine, c'est le chinois, c'est le Mongolian and Tibetan languages that we cover, and of course we buy literature on minority languages, but as you say, we cannot cover all of East Asian and Southeast Asian languages.
Voilà, je vais laisser la parole à la salle, si vous avez des questions.
Hercule, qu'on vous entende bien.
Merci. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Ça nous intéresse beaucoup. J'ai une petite série de questions qui sont parfois liées, peut-être. Enfin, je vais essayer d'être organisée. D'abord, pour l'Orient, est-ce que vous numérisez uniquement les manuscrits ou est-ce qu'il y a des imprimés aussi ? Est-ce qu'il y a des imprimés orientaux, on va dire, des périodiques anciens que vous numérisez ?
Oui.
Oui.
D'accord.
Je garde.
Par exemple, si on parle sur la numérisation maison, par exemple, ce projet chinois, il y a la plupart, ce sont les imprimés.
Oui.
Donc, bon, ce sont parce que la plupart, ce sont les imprimés. Mais il y a des manuscrits chinois aussi dans ce projet. Mais et c'est la même chose pour tous les autres pour les autres projets de la numérisation maison. Donc j'ai dit que nous avons déjà fait plus de 100 projets de la numérisation. Donc en fait, there were medieval manuscripts, German manuscripts from medieval times. There were the first printings in Cunabula that our library is housing. There are musical notes, which we have a large collection of, that have been digitized, and most of these projects actually are third-party funded.
But that doesn't...
Mais aussi, and also what Google is doing, they also, of course, Google is only doing only doing printings, yes.
Je continue en français,
okay.
D'accord. Oui, mais la musical notes, etc., incunabula, tout ça, ça ne me dit pas si c'est européen ou orientaux. Enfin, à part le chinois.
Oui.
À part le chinois qui est un peu... c'est la frontière un petit peu...
Excusez-moi, j'ai oublié de... Je voulais dire que Google, la numérisation de Google... dedans, il y a beaucoup d'ouvrages du 17e, 18e et 19e siècle, ouvrages orientaux aussi. Donc, par exemple, la plupart de notre imprimé hébraïque ont été numérisés par Google. La plupart de notre imprimé chinois et japonais du 17e, 18e, 19e siècle ont été numérisés par Google aussi. Et beaucoup des imprimés turcs et persans ont été numérisés par Google aussi.
D'accord, ce qui répond à ma deuxième question, donc je ne la pose pas. À propos de Google, s'il y avait un choix un petit peu plus vers les caractères latins qui sont peut-être plus faciles à traiter et puis à avoir beaucoup plus de peut-être de lectorat, je ne sais pas. Et pour le financement extérieur, vous dites, donc il y a Google, mais c'est un partenariat. Est-ce qu'il y a des pays étrangers qui vous approchent qui avec des projets de coopération? Est-ce que vous avez des projets de coopération avec des pays étrangers?
Nous avons des coopérations avec certaines des bibliothèques d'autres pays, par exemple.
Des bibliothèques.
Bibliothèques, par exemple, avec la Bibliothèque nationale de l'Autriche, Bibliothèque nationale d'Israël à Jérusalem, Bibliothèque nationale de Taïwan à Taipei. Dans le cadre de cette coopération, il y a des projets, il y a De temps en temps, il y a le financement. Le financement aussi, mais très rare et très peu. Donc, ça, cette coopération, c'est plutôt pour échanger un peu les expériences, les contacts et comme ça, voilà.
Je vais juste rebondir sur la question de madame pour te poser une question un peu plus précise sur la Bibliothèque nationale de Taïwan. Je sais qu'ils ont fait un catalogue des ouvrages chinois rares et anciens. Et je sais qu'ils approchent les bibliothèques étrangères pour intégrer leurs notices. Enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe à ce catalogue. Et donc, je me demandais si vos ouvrages... Et ça y est, c'est fait. Oui. D'accord.
Donc, actually, this is one result of this cooperation that we were asked to, or we were able to include our Chinese rare book metadata into their database. Well, actually, if there wouldn't have been the cooperation, we were able to do this too, because a lot of libraries have their, with old Chinese materials, have included their metadata there. But beside this, we are also planning to really not only exchanging metadata, but really exchanging the images, like the TIFF files of the images produced, and I think this could be interesting for the Taiwanese National Library to get our images, and of course for us it would be interesting too.
Bonjour, merci pour votre présentation. Vous avez dit que donc 130 000 documents ont été numérisés maison. Et j'aurais aimé savoir combien de personnes travaillaient dans le service de numérisation de la BSB et comment ça se répartissait.
Combien de personnes
travaillaient dans le centre de numérisation de la BSB et comment ces personnes se répartissaient sur les personnes qui scannent directement les documents, ceux qui travaillent sur les métadonnées, la mise en ligne des documents après. Merci.
I start from the beginning in English because this is very technical. Yes, there are actually our Munich Digitization Center has become over the years quite a big department of our library. When it started in 1997, it started with a few people. I don't know exactly how many there are today, but actually there are two sections. There's the scanning center, where are all the scanners and the scan operators who are actually doing the scanning page by page. And we have probably around 20 to 30 scanners of all different types, from scan robots to other types of scanners. And people are working in three shifts, so, and some are working part-time, so all in all there might be quite a lot of people working there. The problem is that as all these nearly all of the scanning there is financed by is third party funded, it's really hard to calculate or plan for longer than 2 or 3 years. So we are trying hard to get a fixed budget from our ministry. But also this center exists since the year 1997. We have no budget yet. So all the money coming is coming actually from is coming from outside the library. It's coming not from our regular budget. So this was the site of the scanning center, and the second part of the Munich Digitization Center is actually the part of the department where all the processing is done, quality control, OCR scanning, Metro en ligne, all this digitized books and manuscripts, and there are probably the same number of people working in this second part of the department. So actually, it's quite a over the years it has become quite a big department of our library. Yes.
Ça fait peut-être beaucoup d'informations techniques en anglais. Est-ce que vous voulez que je résume éventuellement en français ? Oui. Alors en fait, oui. Alors du coup, je résume et je vais peut-être oublier ou faire quelques erreurs, donc n'hésitez pas à me corriger. En fait, depuis 1997, il y a un département de la numérisation qui est divisé en deux sections. Une section qui est consacrée à la numérisation elle-même des documents avec 20 à 30 scanners de tout format, je pense. Si je ne me trompe pas sur les chiffres.
20 à 30.
20 à 30. Et en fait, ces scanners sont utilisés quasiment toute la journée avec des équipes qui tournent en fait, derrière les machines. Ce qui fait qu'il est extrêmement difficile de dire combien de personnes sont employées dans cette section. Et là, l'autre section en fait, est consacrée à tout le travail de traitement des données et de dossierisation, de contrôle qualité et de création des métadonnées. Et là aussi, c'est pareil, je pense qu'on n'a pas de chiffres précis. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que en fait, tous ces programmes de numérisation sont des programmes financés grâce à des partenaires extérieurs et que donc ils durent en moyenne 2-3 ans. Et en fait, il n'y a pas de ligne budgétaire continue. La bibliothèque demande actuellement à l'État de Bavière la possibilité d'avoir une numérisation financée de façon permanente. Donc pour l'instant, avec cette numérisation grâce à des budgets tiers, il n'y a que des programmes courts. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé ?
Oui. Merci beaucoup.
Question ?
Bonjour. En fait, je voulais vous poser comme question, je voulais savoir si vous aviez un département dans votre bibliothèque, la BSB, qui s'occupait plus spécifiquement de ce que j'appellerais une iconothèque, une base de données, des bases de données d'images en histoire de l'art ou en archéologie.
Oui.
Je ne parle pas assez fort.
Les ça veut dire les photographies ou
aussi bien des photographies de tableaux que des photos des photographies.
Ah oui. We have a we have a collection of a huge collection of maps and of photos, photographies, which forms one département, which is called Department for Maps and Pictures. But pictures here only means photographs. But we have no. There are some tableaux. Rouleau, but really rare because in former times the Bavarian rulers, of course, they collected a lot of these, a lot of paintings of all these things too, but. This is not part of the Bavarian State Library. This is part of the special collections of Bavarian or Munich museums. So we are not so yes.
Tu veux que je
Oui, on va le faire à deux, on va faire de la traduction collaborative.
Voilà.
Alors en fait, il y a deux départements ou sections, l'une consacrée aux cartes, L'autre,
c'est,
plutôt,
oui. c'est un département.
C'est un seul département avec des cartes et donc des photographies. Et il y a bien eu par le passé des tableaux, mais ceux-ci vont plutôt dans les musées.
Non. Je crois que c'est que, en fait, il y a des, j'imagine des rouleaux peints, des peintures, des choses comme ça, mais qui sont en fait conservées dans les départements de collections spécifiques. Par exemple, s'il y a des rouleaux illustrés chinois, c'est avec les collections chinoises.
Mais très rare, très rare. Normalement, tous les, par exemple, les dans le that what you can see in, for example, in the Pinakothek, donc cette musée à Munich, alte Pinakothek et neue Pinakothek, 95% of these paintings there were collected by the Bavarian rulers until the beginning of the 20th century, and but this is totally separated from what we are housing in our library.
Voilà, donc il y a bien eu des collectes il y a bien eu effectivement des tableaux collectés au fil du temps, mais ceux-ci font partie de collections de musées et non pas de collections de bibliothèques. Y a-t-il d'autres questions?
Oui, c'est une question à portée plus générale concernant la place du département Asie et Orient au sein de la Bibliothèque d'État de Bavière. Quelle est la vision en termes de politique générale de la bibliothèque par rapport à ce département? Est-ce que c'est pour elle un département cher à son cœur, un département qu'elle entretient, pour lequel il est important de mettre des moyens, ou est-ce que c'est plutôt un département dont finalement... vous vous battez pour maintenir votre capacité de fonctionnement et ce n'est pas facile tous les jours. Enfin, quelle est votre position au sein de la Bibliothèque d'État?
Oui, c'est une bonne question. That's a very good question. And I'm not sure. I mean, I have my own vision or hopes or whatever for our department. I'm not so sure about the future, unfortunately. But what? Because it's there's we are quite a small department. When it comes to people working there at the moment, and when it comes to our yearly budget compared to what other departments have. And when we compare it to earlier years. But as our collections are really rich and strong and quite big, actually, also when it comes to number, not only when it comes to quality, I think it's quite obvious, and I think it should be quite obvious also for the future, that these Oriental and Asian collections should be continued and should always be a part of the library and continue to be part of the library. And and I can say that for our present head of our library, they are quite aware of what we have in our special collections on the Oriental and Asia of our Oriental and Asia department, and this is what I think this is important that they have this in mind and that they are aware of this. And it can be seen by quite a lot of people coming from all over the world to consult our collections, and I hope this will continue during the next 450 years of the history of our library.
Alors, rapide résumé. Donc, Thomas disait que c'était une très bonne question et que c'était un petit peu compliqué de répondre parce qu'effectivement, c'est un petit département, donc avec un petit poids au sein de la bibliothèque et que bon, on pouvait se poser des questions sur, sur son futur, notamment en termes de budget. Hein, si j'ai bien compris, mais que d'un autre côté, ce sont des collections rares, précieuses, qui attirent des gens de l'étranger aussi, et que c'est un des points phares quand même de la bibliothèque, et donc il paraît inenvisageable qu'ils disparaissent ou que les moyens s'amenuisent totalement.
And just to add this, maybe two sentences, and there's when because there's quite an imbalance when you look at the number of books and manuscripts cover that have to do with Oriental and Asian languages, that's about 1/10, so 1 million out of 10 million volumes that are. That's actually printings on the cultures of the like the Oriental and the Asian region and cultures, and it's even more when it comes to manuscripts. It's 18,000 out of 95,000 or 98,000, and it's about 20% of our manuscripts are Oriental manuscripts. So. Compared to this, our 15 people working in the department out of 750 all in all, and the budget we get, that it's compared to the whole budget of 50 million, not so big it either. There's quite an imbalance, but I don't want to complain. It's okay.
Donc, il ne va pas se plaindre, mais il soulignait le Thomas souligne le déséquilibre, puisqu'en fait, si j'ai bien compris, il y a à peu près 1/10 des imprimés rares et précieux, non ? Ah, de tout, 1/10 des imprimés sont des imprimés orientaux, c'est ça ? Non, parce que j'ai pas très bien compris le début. Voilà, ou sur... voilà. Et pour les manuscrits, c'est 20%. C'est ça ? Alors que il n'y a que 25 personnes sur 750 qui travaillent. 15 personnes. Bon, décidément, j'ai rien compris. sur 750 et que le budget aussi est ridicule. Mais voilà. Comme il le dit au début, il ne passe à la fin, il ne se plaint pas.
Bonsoir. Je voudrais vous demander, avant de procéder à la phase numérisation, est-ce que vous avez commencé à traiter les documents en cataloguant dans une base nationale les manuscrits ou les imprimés précieux de votre bibliothèque ? Et si oui, dans quelle base, quel format, quelle norme, et est-ce que vous auriez un exemple de ce travail à nous montrer, éventuellement?
Yes, thank you for your question. It's I wanted to point out that we are trying to make our digitized images accessible through as many channels as possible. So of course we are also participating the what's called German Digital Library, Deutsche Digitale Bibliothek, which is online, I think, for about 1 year or something. And of course, our digitized works can be found in Europeana. Actually, we are the biggest contributor from Germany to Europeana, by far. And on the Bavarian level, there's a platform where we send our digitized works to. But I think how do you say this? I think it's to our take is to make it accessible through as many channels as possible, because I think most of the people are not using or not directly accessing one of these portals like Europeana, Deutsche Digitale Bibliothek. The idea is nice, but I don't think it works very well. This is my personal opinion. So I think at the moment, maybe in the future, there will be one big portal that is very that works very well. A lot of things are included, and I only have to know one or three or four portals, and I get everything I want. But up to now, it's much easier if I'm using search engines, as Google, for example, but there are other search engines. So for us, it's important that all our works, all our metadata, and all our digitized works can be found not only through these special portals like Deutsche Digitale Bibliothek and so on, but also through search engines. I don't know if this was your question. Okay. But sorry about the metadata. I'm no specialist for metadata. I think we're transforming our data so that it can be entered to all these portals, but I'm not a specialist for this.
Oui, absolument. On va peut-être s'y mettre à deux. Oui, alors, en fait, Thomas a insisté sur le fait qu'il cherche à faire donc connaître ses manuscrits et à les rendre accessibles par tous les moyens possibles, et notamment à travers des portails nationaux ou internationaux, comme le portail des bibliothèques allemandes, de la bibliothèque numérique allemande et d'Europeana, sa bibliothèque est notamment l'une des principales contributrices d'Allemagne à la base Europeana. La principale est de loin, en effet, contributrice à Europeana. Quoi dire d'autre ? Et qu'il n'est pas par ailleurs un spécialiste des métadonnées plutôt lié plus techniquement de catalogue de bibliothèque. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important ?
J'ai l'impression, mais je suis un peu perdue aussi. Je crois que ce que Thomas disait aussi, c'était que ce serait ce qui était, tu me dis hein, si je me trompe, ce qui était important, c'est que les ouvrages numérisés soient facilement accessibles, notamment par les moteurs de recherche. C'est ça, hein, que...
Voilà, parce que voilà. Par tous les portails ou tous les types d'accès...
Qui sont plus utilisés, excuse-moi, que en fait, des portails très spécifiques que surtout des bibliothécaires vont aller consulter.
Oui, parce que...
avec Google Books, yes. En fait.
Because I think that researchers are using special catalogs that they know they find something in, like, for example, hopefully library catalogs too. And on the other side, they are using the big search engines. But I'm afraid that all those island-like portals like Europeana or Deutsche Digitale Bibliothek, they look nice, but they don't make sense when it comes to research.
Une autre question. Oui.
Oui, en fait, Thomas pense que l'accès se fera plutôt soit par les catalogues, soit par des moteurs de recherche généralistes, et croit assez peu en l'avenir de ces portails dédiés aux bibliothèques numériques.
Concernant l'archivage pérenne, est-ce que vous allez vers une solution cloud ou seulement vous archivez dans un établissement dont vous avez cité lors de votre intervention ? Est-ce que vous avez un projet ?
Oui. when it comes to the metadata or when it comes to the image files? Image files. When it comes to the image files, we are when we're talking about clouds, about the cloud, there's still a physical basis somewhere, wherever the server is placed. So as we're not using a server that is situated in our own library, but as we are using a server of this, or we're sharing a server with other Bavarian institutions, research institutions, that all are storing their data there, it's kind of a Bavarian cloud. When it comes to the metadata, actually German, which might be interesting, but which is another topic, but I just touched this very quickly because it's interesting. There's a project or there are plans that the whole cataloging and the whole keeping of metadata of the title of German research libraries shall be transformed within the next 5 years, probably, away from our own library centers, service centers, to a cloud solution which will be used for whole Germany. Right now we have separate networks in Germany, and every network, there are I think 6 or 7 big networks, and all of them has their own catalog, and the plan is to transform all these catalogs into one cloud environment in the future.
Alors pour les fichiers images, ce n'est pas conservé dans un serveur de la bibliothèque, mais dans les serveurs du centre dont Thomas a parlé tout à l'heure, c'est ça? Voilà, qui sert pour toute la Bavière ou pour
certaines institutions.
Voilà, pour certaines institutions, donc c'est un peu comme un cloud. Voilà. Et
Bavarois.
Voilà, c'est un peu le CINES bavarois pour ceux qui connaissent le CINES. Et puis pour les métadonnées et le catalogage, l'Allemagne se dirige vers une pareille.
Une solution cloud.
Voilà, ouais. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, une solution nationale en ligne.
Voilà, de passer du catalogage des bibliothèques vers un système en fait partagé qui soit abrité dans un cloud.
Puisqu'actuellement, chacun a son propre système, c'est ça? Plus ou moins.
Et j'ai une dernière question. Concernant le financement de ces projets-là, vous avez mentionné le financement public-privé. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus précisément comment est-ce que vous montez ces projets pour obtenir le financement de la part des secteurs privés? Ou peut-être le secteur privé pour vous, c'est uniquement Google? Je ne sais pas, je n'ai pas très bien distingué dans votre... Merci.
Your question is about if the public-private partnership I was mentioning actually is the partnership we have with Google, and then there's for example the German Research Foundation on the other side. This is your question? Yeah. Well, actually, there's the partnership with Google. There's one big public-private partnership we have, and this is the partnership with Google. And all the other projects that are third-party funded, it's actually there are no other really private partners in there. It's all this third party funded project. The money is coming from institutions or how you say Stiftungen,
Fondation,
that are not what you actually call private, but it's there's state money in it, or there's money from private money from donors in it. So these are the two parts of where money from outside comes from. Yeah.
Donc il y a un partenariat, un seul vrai partenariat avec le privé, c'est le partenariat avec Google. Et pour le reste, ce sont des financements soit d'agences publiques, soit de fondations semi-publiques. Enfin, c'est un peu... Voilà.
Oui, fondations scientifiques.
Mmh. Scientifiques, oui, oui. Voilà.
Y a-t-il d'autres questions ?
C'est juste une petite question de curiosité sur l'un des services innovants que vous nous avez présentés, sur la présentation en 3D des trésors que vous nous avez montrés. Vous avez bien dit à la fin de la présentation que c'était un peu entre le service et le test. Enfin, et alors justement, quelle finalité de service visez-vous avec ce genre de traitement À quoi pensez-vous, à qui pensez-vous en termes d'usage? Est-ce que c'est juste un produit de communication ou est-ce que c'est censé aller vers des services à la recherche et un usage plus scientifique?
Oui, en ce moment, cette 3D Explorer... But it is used for expositions. Exhibitions, yes. When, for example, we had this, we have an exhibition on like manuscripts of medieval area, then we have one, for example, the one. Top oeuvre, for example, we present, because when you see it in an exhibition, we have to decide what pages you show. So there are 200 pages, and you have to decide for one double page to display. So we used it there, so there you can switch virtually page to page. You turn page, no page, and like this, see the whole book, the whole manuscript, and get an impression of the illustrations on the other pages and so on. But apart from this, I'm not sure if there's already a real idea of how this could be practically used in everyday library life and services. I think it's more about part of our strategy or politic of being a little bit not ahead, but being but trying to adopt and use and new technologies for library services. So we have all these digitized works, we have all these images, so now what can you do with them? Of course, you can make them accessible via the internet, but maybe there are other ways of making them visible and so, for example, the applications, the applications mobile, they are one way of doing this. So when it comes to the BSB CD Explorer, I think it's at the moment it's more an experiment than a real service, as I mentioned already. Yeah.
Alors pour l'instant, c'est principalement, enfin uniquement utilisé pour les expositions, notamment pour permettre pour les de pouvoir feuilleter les manuscrits phares. C'est un ou c'est plusieurs? Il y en a. Do you have many or just one or two?
One.
Voilà, puisqu'en fait, quand on fait une exposition, bah, faut choisir la page que l'on va exposer et les visiteurs n'ont pas la possibilité de parcourir l'ouvrage et ce service permet donc de feuilleter l'ouvrage, de le retourner dans tous les sens. Enfin, voilà. Et puis, sinon, c'est plutôt une comment est-ce qu'on dit en français, une expérience, une expérimentation qui va aussi avec le côté un peu avant-garde sur le plan technologique, technique, nouvelle technologie de la bibliothèque qui, comme vous l'avez vu dans la présentation, est quand même assez moderne sur ce genre de service.
And actually, it has a real effect, not so much when it comes to service for our users, but when it comes to the public, because these are things that local newspapers or TV stations pick up, and like this, we have the chance to. Are in the media, and what is even more important for us is that these are things that the people that decide on our budget in the ministries and the petitions, this is what they like. Maybe more than all the treasures in our collections, and there are, for example, nationwide in Germany and also in the Bavarian level, we won prizes with this. For innovative services, and then you see a minister with our director general shaking hands, and then there's this high technology something in the background, and this is good publicity for our library. So the investment in this development of this 3D Explorer compared to the publicity and awareness for our decision makers, this might be in a good relationship.
En résumé, ça a un impact, on va dire, important dans les médias, via les médias, sur le public. C'est assez c'est facilement relayé par les journaux, la télé. Voilà. Et par ailleurs, c'est aussi un très bon moyen d'attirer les financements, puisque c'est le genre de projet qui a la cote auprès du public. Et c'est aussi un projet qui a permis à la bibliothèque de gagner des prix d'innovation. Enfin, voilà. Et donc, c'est très bon pour l'image et la publicité de la bibliothèque. Tu complètes si...
Non, mais c'était très bien résumé. C'est effectivement un positionnement stratégique de la bibliothèque, aussi bien du point de vue médiatique que politique. Ouais. Eh bien, c'est sur ces quelques mots que je vous remercie. Je remercie Thomas Tabori, Soline Lossuchet et vous donc d'être venus à la fois... passionné, attentif et posant beaucoup de questions à notre invité. Merci encore. Et donc, je vous donne rendez-vous à partir de la prochaine saison universitaire pour une nouvelle saison culturelle où vous aurez l'occasion d'entendre à nouveau parler des collections, des bibliothèques, de toutes les aires géographiques que couvre la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations. Donc, merci à tous et bonne soirée et à bientôt.